Studio Tamani, voici les informations en français.
Les autorités maliennes ont mis fin hier à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La décision est soutenue par de nombreuses organisations. Le numérique et la lutte contre la corruption étaient au cœur d'une rencontre d'échange ce matin à Bamako. L'objectif vise à former les participants sur des innovations afin de lutter contre le fléau. Les huitièmes de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 démarrent ce samedi. Comment les aigles du Mali se préparent pour aborder cette phase? Les détails dans cette édition présentée par Juliette Koulibaly, Salim Djouara assure la technique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les autorités de la transition ont annoncé hier la fin avec effet immédiat de l'accord pour la paix et la réconciliation. Plusieurs raisons ont été évoquées par le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a lu le communiqué à la télé. On peut retenir le changement de posture de certains groupes signataires, l'incapacité de la médiation internationale à assurer les obligations incombant aux groupes signataires malgré les plaintes de la transition. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de la part des autorités algériennes. Beaucoup d'organisations se disent favorables à la décision. Mariam Koulibaly pour plus de détails.
La coordination des associations et regroupements de la société civile CARSOC est l'une des premières organisations de la société civile à dénoncer cet accord signé entre l'État et les groupes armés. Son président Adama Traoré prévoit une grande marche pour célébrer la nouvelle.
Pour ce qui est de l'accord, le Mali a été trahi. Israël, clair, à toutes les lignes. Nous avons réagi, nous avons dénoncé, nous avons crié à qui l'entendre. Alors, l'attitude actuelle du gouvernement, nous le saluons, car on revient effectivement à cette étape essentielle de notre souveraineté.
Le Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali ne dira pas le contraire. Son président, Cheikh Oumar Sidibé, rétorque qu'il fallait prendre cette décision plus tôt.
Ces accords ont été signés à un moment où les autorités d'alors avaient le couteau à la gorge. Donc elles ont faibli, il faut le reconnaître, devant les desiderata d'une certaine communauté internationale. Et à cela, les caprices des bandits armés, parce que c'est comme ça qu'il faut les apaiser. Ces accords, on pouvait faire autre chose avec que de les mettre dans les poubelles.
Le mouvement de l'inclusivité et leurs alliés a réagi à travers un communiqué en félicitant les autorités de la transition. Pour le moment, aucun parti politique important n'a officiellement donné un avis contraire à cette décision.
Les autorités algériennes, dans un communiqué, regrettent la décision des autorités du Mali. Elles affirment qu'elles n'ont failli à travailler à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Cependant, l'universitaire Pierre Claver Bakoroba Traoré affirme que cette décision du gouvernement n'aura aucune répercussion sur le plan sécuritaire. Selon lui, il faut s'attendre seulement à un coup de froid dans les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. Selon l'enseignant, le dialogue direct intermalien proposé par le président de la transition pourrait être la solution, la meilleure alternative pour le retour de la paix et la stabilité au Mali. Il est au micro de Intala Agbilal.
Il est à craindre que cela ne rende nos relations diplomatiques avec l'Algérie encore plus compliquées. Le gouvernement malien estime être dans son droit de prendre une telle décision, surtout après ce que j'appellerais l'accrochage qui a eu lieu au sommet des non-alignés à Kampala. Certes, les partenaires internationaux pourraient aussi entrer dans la danse, au même titre que l'Algérie. Bon, maintenant, par rapport à la question des alternatives ou des propositions de paix, je pense que le Mali a déjà enclenché procédure à travers cette volonté d'aller vers des pourparlers intermaliens. Maintenant, la balle va être dans le camp des Maliens pour s'assurer que les pourparlers intermaliens donnent des résultats. En clair, le Mali prend ses responsabilités et il faudrait que ce soit concluant pour nous.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Nous partons à Kidal où une quarantaine de chefs de fraction et élus locaux ont démissionné du CSP, cadre stratégique permanent, et du conseil de l'AGDAG. Majoritairement issus du Gacha, ils ont fait une déclaration commune mercredi dernier. Cette décision vise, selon eux, à accompagner les autorités afin de contribuer au retour de la paix, la sécurité et la cohésion sociale à travers un dialogue intermalien. Ils disent adhérer au conseil supérieur des IMGAD et alliés. Je vous le disais dans les titres, une rencontre sur le numérique s'est tenue ce matin à Bamako. Le numérique comme instrument de lutte contre la corruption était le thème de cette rencontre de la Fondation Friedrich Wuman et ses partenaires. L'objectif est d'encourager des innovations en informant sur les nouvelles plateformes existantes afin de lutter contre la corruption. Abraham Benkali, secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, est au micro de Alima Yatara.
Dans notre contexte, l'interférence du thème choisi avec la corruption impacte tous les lieux de la vie quotidienne et des rapports socio-professionnels. La lutte contre la corruption devient ainsi une exigence démocratique qui implique une moralisation de la gestion des affaires publiques et des affaires de façon générale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Grâce à la volonté des autres autorités de la transition, la bonne distribution de la justice, la reddition de comptes des gestionnaires et l'enrôlement des affaires d'enrichissement illicite font partie des signaux forts pour convaincre les Maliennes et les Maliens de la fin des dérives, de l'effectivité du changement annoncé et de l'avènement du nouveau Mali.
Les journaux de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Cannes Côte d'Ivoire 2023, la phase à élimination directe débute ce samedi 27 janvier 2024 par les huitièmes de finale. Plus de calculs possibles, la victoire est impérative pour rester dans la compétition. Les deux premières huitièmes de finale opposent demain l'Angola et la Namibie, Guinée équatoriale contre la Guinée. Les Aigles jouent mardi prochain contre les Étalons du Burkina Faso à 17h au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo. Quel est le mot d'ordre du côté des protégés d'Éric Sekouchel? Nous retrouvons Zamoro à Abidjan.
Le mot d'ordre demeure inchangé du côté des Aigles du Mali. Il s'agit de remporter le trophée. Pour arriver à cette fin, l'étape des huitièmes de finale est déterminante pour la suite de la compétition. L'engouement est de mise chez chacune des 16 équipes qualifiées pour cette phase des huitièmes de finale. Les compteurs sont remis à zéro et le moindre détail de l'adversaire est exploité pour se qualifier au quart de finale. Le Burkina Faso, selon Éric Sekouchel, est un adversaire de taille. Le sélectionneur s'attend à un match difficile. Pour lui, ses joueurs doivent être efficaces dans la préparation physique. Il s'agira plus précisément pour le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers de mettre un maximum d'intensité dans leur jeu afin de remporter les 3 points. La préparation morale et mentale fait aussi partie des séances d'entraînement. Faut-il le rappeler, lors de la précédente CAN, le Mali n'est pas parvenu à dépasser l'étape des huitièmes de finale. Côté infirmerie, c'est l'attaquant Moussa Doumbia qui y était. Peut-être que d'ici là, il sera rétabli. Zamongon à Abidjan pour Studio Tamani.
Depuis le début de la CAN, les arbitres font l'objet de plusieurs critiques des supporters. Mais selon les analyses du secrétaire général de la FEMAFOOD, Sidi Bekay Marassa, non moins ancien arbitre, la prestation des arbitres jusqu'à ce jour est salutaire. Il souligne que la VAR rend désormais plus difficile la corruption dans ce domaine. Il réagit au micro de Kwan Diara.
Donc, j'ai vu quelques matchs. C'est vrai qu'à ce niveau, je n'ai pas trop d'appréhension par rapport à la prestation des arbitres. En tout cas, tous les matchs que j'ai vus, notamment ceux du Mali, contrairement à ce que certaines personnes pensent, moi je pense qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de l'arbitrage. Les arbitres ont été très corrects dans les 3 matchs que j'ai vus du Mali. Donc moi je pense à ce niveau, surtout à la Coupe d'Afrique, aucun arbitre ne prendra la responsabilité de faire volontairement battre quelqu'un ou bien d'aller contre une équipe au risque que tu rentres à la maison et ta carrière est complètement brisée. Donc moi je pense qu'ils ont autant de pression que nous-mêmes, nous publics, nous supporters, mais ça s'arrête là. Ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent.
Les activités du festival Ogobanya se poursuivent à la place du cinquantenaire à Bamako. Pour les organisateurs, Quoique cette manifestation culturelle coïncide avec la CAN 2023 qui se joue présentement en Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour joindre l'utile à l'agréable. Suivons ce reportage de Agdama Djigiba.
Pour Amadou Di Modi Giru Togo, membre de la commission d'organisation du festival culturel Ogobanya, la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas d'impact sur le festival Ogobanya.
De nos jours, la place qu'occupe le festival culturel Ogobanya est tellement ancrée que la CAN périodique ne pose pas de problème du tout sur l'affluence. Mieux, dans notre programme, nous l'avons aménagé de telle sorte que des écrans servent à retransmettre des matchs.
Sanogo Kamogo Daniel pense que le festival Ogobanya est aussi important que la CAN. Il suit chaque année le festival Ogobanya.
Moi, je préfère quand même le festival Ogobanya. Je peux dire que c'est des grands événements qui se déroulent une fois l'an. Nous, on s'organise pour ça. Qu'il y ait CAN ou pas, nous sommes là à Ogobanya.
Selon les organisateurs, il n'y a pas de chevauchement entre la culture et le sport. Ogobanya est aussi sportif.
La CAN, en une anecdote, nous parle d'une histoire tragique. La scène s'est déroulée à la CAN 2010 en Angola.
Le 8 janvier 2010, deux jours avant le début de la CAN, alors qu'il se rendait en Angola pour la CAN 2010, le car transportant les éperviers du Togo a été mitraillé. Bilan, deux morts et des blessés par balle parmi les joueurs. Selon le témoignage, la scène a duré plus de 20 minutes. L'incident a été revendiqué par les forces de libération de l'État du Cabinda. Après, la milice aurait expliqué qu'elle visait plutôt les forces armées angolaises chargées d'escorter le bus du Togo. Malgré cet incident, la CAN est maintenue et le gouvernement togolais décide de retirer ses joueurs de la compétition. Les éperviers rentrent au pays traumatisés par l'attaque et avec le regret de ne pas avoir pu défendre les couleurs de leur pays.
Et c'est sur cette anecdote signée Idrissa Sako que se referme cette édition qui vous a été présentée par Juliette Koulibaly. Salim Djouara assurait la mise en onde. Je reçois maintenant Mariam Maïga depuis la place du cinquantenaire pour nous introduire le grand dialogue. Bonsoir Mariam. Alors quel sera le thème débattu ce soir?
Bonsoir Juliette Koulibaly. Comme tu le sais, depuis le début de la semaine, nous sommes sur le site du festival culturel Ogobanya pour l'enregistrement de nos différentes émissions. Et ce soir, pour le grand dialogue, nous sommes toujours sur les berges du fleuve Niger à Bamako. Et aujourd'hui, nous allons parler du sport. CAN 2023, une phase de poule riche en sensations et surprises. C'est le thème de notre émission de ce soir. Et pour en parler, nous avons deux invités, le coach Demba Mamadou Traoré et le chroniqueur sportif Adama Maïga. Et le débat se fera en langue nationale bamanankan.
Merci Mariam et bon débat. Ne décrochez surtout pas, chers auditeurs, dans un instant, le magazine. Place maintenant à notre magazine Économie du jour qui s'intéresse à la viande rouge du Mali, désormais labellisée. Ce numéro est réalisé par Fatoumata Kodjo avec le concours de nos correspondants.
Youba Ba, ministre de l'élevage et de la pêche du Mali, signale que la filière bétail-viande a une importance économique, sociale et culturelle. Selon lui, le pays est parmi les premiers exportateurs de viande dans la sous-région et occupe plus de 15% du produit intérieur brut national.
Ce label qui est en train d'être mis en place pour la filière bétail-viande va permettre aux acteurs de la filière de valoriser et promouvoir, de développer des opportunités pour la viande rouge et ses dérivés du Mali afin qu'ils pénètrent les marchés et d'être protégés contre toute usurpation.
L'annonce de cette labellisation est saluée par l'interprofession de la filière viande-bétail. Son président Mamoudou Abdoulaye Diallo souligne qu'elle va diminuer les pertes causées par l'exploitation de la viande sur pied.
Vous savez, nous, notre viande, c'est aussi les zones climatiques, c'est les terrains, c'est les fourrages et les terres salées qui fait que nous produisons de la viande de très bonne qualité qui est prisée dans le monde. Mais malheureusement, il arrive que nous exportons le bétail sur pied, conduisant le bétail pour aller dans les pays frontaliers, le bétail hyper en poids. nous perdons tout ce qui est accessoire et aussi des potentialités comme le sang, les résidus des estomacs, les sabots, les peaux, les cornes qui peuvent servir aussi d'ornement.
Des citoyens de Bamako, Tomi Asegu et Yoroso approuvent cette initiative. Ils soulignent que le modèle augmentera les profits des éleveurs et permettra de différencier notre viande à l'échelle mondiale.
Économiquement, c'est bien. Sanitairement, c'est bien. Sur le plan nutritionnel, aussi, c'est très bien. Parce qu'une viande de bonne qualité, là, il y a de l'argent là-dedans.
Ce serait l'occasion pour nous vraiment d'abattre ces animaux ici et de mieux gagner là-dessus.
Le Mali est un pays à fort potentiel sylvopastoral. Ça permettra aux acteurs du secteur de produire de la viande de qualité.
C'est une très bonne chose. C'est une façon de certifier la viande pour montrer que c'est une viande de qualité et dont la consommation ne pose aucun problème.
La labellisation garantit la qualité de la viande.
L'économie malienne repose principalement sur l'agriculture et l'élevage. Des économistes estiment que la labellisation permet de mieux organiser la filière et de suivre la chaîne de production. Professeur Abdoul Karim Djamoutene, économiste.
Désormais, tout se passera en amont au niveau du Mali ici. Et donc, ce qui va créer, n'est-ce pas, un ensemble d'emplois et également ce qui va contribuer à la structuration d'un ensemble de filières. Donc, c'est fondamental. La labellisation est une exigence de qualité. C'est comme vous dites aux consommateurs que c'est vous qui êtes propriétaire et responsable de ce produit-là. Et donc, du coup, ça fait que si vous voulez garder votre image de marque, n'est-ce pas, être aussi apprécié, il faudrait que vous obligez à adopter des comportements de qualité. Et aujourd'hui, c'est une condition indispensable pour le développement industriel du secteur.
Notons que l'interprofession de la filière bétail-viande a sollicité le bureau d'été de Sitsarl pour parvenir à une marque collective et le développement d'un label pour le Mali.